Oui, agrobiodynamie, oui. Non, mais on est dans les principes de Steiner et il peut y avoir quelques principes bons en agriculture agrobiodynamique, hein, mais qui a aussi une dimension occulte et ésotérique, puisqu'il va falloir dynamiser les éléments en fonction de non seulement la Lune, mais également les planètes. Et là, on est dans des perspectives qui nous viennent de l'ésotérisme et de l'occultisme que Steiner a mis en place. Ça s'appelle la science de l'occulte. Et il a donné des indications tant dans le domaine de l'architecture que de la médecine, que de la pédagogie. Ce sont les écoles Steiner, etc. Donc il y a des éléments qui peuvent être intéressants, hein, dans l'observation du réel. Attention à la doctrine qui est derrière. L'Église s'est prononcée clairement à travers un document qui pour moi est véritablement référent, c'est le Christ porteur d'eau vive, et qui demeure pour moi une référence du Conseil pontifical, et c'est vraiment une référence des références. Je crois que ce document-là, il est à lire et à relire, il donne des clés de compréhension par rapport à la gnose et par rapport à tous les courants actuels de cette... Et d'ailleurs, l'énéagramme est pointé du doigt. Dans une subtile dialectique, Pascalide en fait, fait dire au document ce qu'il en fait n'a pas dit. Hein. Donc voilà. Ouais. C'est assez difficile parce que, vous savez, ce sont des questions très techniques, hein, qui sont là-dessus. Et derrière, il y a effectivement c'est étayé. Et parfois, ça peut paraître un peu compliqué parce qu'il y a des néologismes, des noms un peu... Voilà. C'est le plus compliqué, c'est de faire simple, hein, quand on parle de ces choses-là. C'est une des grosses difficultés. Aujourd'hui, il y a une multiplication de bouquins, si vous voulez, mais attendez, le livre de Pascalide a ni l'obstat et l'imprimatur. Je ne sais pas si vraiment, au niveau doctrinal, si on se penche réellement, hein, sur le livre. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Sœur Mariancilla, et ce qu'a fait aussi des dominicains, un dominicain... De Montpellier, qui a fait une recension du livre sur le plan théologique. Il y a vraiment des inepties, si vous voulez. Hein. Maintenant, c'est le point de vue de Sœur Mariancilla, c'est le point de vue de ce dominicain, et Pascalide défend sa position, si vous voulez. Donc, mais quand même, je vous ai donné un certain nombre de points qui me semblent être des points véritablement... difficile sur le plan théologique de pouvoir argumenter sur la perspective de l'énéagramme et du péché, par exemple. Hein. Et puis, est-ce que nous aurions 9 portes à notre âme, si vous voulez? Ce sont des manières de réintroduire la métaphysique ou la théologie, encore une fois, dans ce prisme-là. Et je pense que ce n'est pas juste.
Les évêques des États-Unis ont publié un document il y a...
Alors, je suis totalement d'accord avec vous, et totalement. Cependant, je pense que, si vous voulez, et je crois que ça c'est aussi quelque chose de très important, saint Irénée, s'il a écrit contre les hérésies, c'est parce qu'il s'est pénétré, il a pris du temps à vraiment rentrer dans ses conceptions gnostiques avec les éons et compagnie. Et l'introduction que fait saint Irénée lui-même a précisément contre les hérésies est véritablement un texte, je trouve, emblématique pour nous donner les clés de lecture par rapport aux discussions que nous avons aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas perdre son temps dans ces trucs-là. Cependant, il est important que des chrétiens s'y mettent pour pouvoir argumenter avec la conception même de ce qui est donné dans ces écrits ou dans ces conceptions-là. Il est important que nous fassions cet effort conceptuel de savoir ce qui y est dit. Et saint Augustin n'a rien fait d'autre non plus. Vous voyez, quand il écrit sur les deux cités, il va chercher ce que disent aussi les gnoses de son temps, le manichénisme, etc., l'arianisme. Vous voyez, donc, et puis Plotin aussi, qui est donc, voilà. Donc, si vous voulez, il y a un effort sur le plan conceptuel, sur le plan et philosophique et théologique, pour contrer ces perspectives-là. Disciple direct de Polycarpe, qui était lui-même disciple de Saint Jean lui-même. Hein, donc, on est là, c'est très intéressant, parce que vous voyez aujourd'hui, dans les milieux gnostiques ou les milieux ésotériques, on prend Saint Jean comme étant l'initié total, si vous voulez, hein, celui qui est, voilà. Dans Steiner, on retrouve ça, si vous voulez. Et par conséquent, donc, on s'aperçoit que ces milieux gnostiques veulent récupérer un Saint Jean qui serait haut-initié, alors que le disciple direct, étant Polycarpe et Saint Irénée, est en combat précisément contre ces gnoses de son temps et contre ces religions à mystère. Donc il est important de rentrer dans cette filiation authentiquement ecclésiale, parce qu'aujourd'hui émergent d'autres traditions, nous le verrons aussi la prochaine fois, dont, par exemple la croisée des mondes, où, si vous voulez, on rentre dans d'autres traditions d'ordre ésotérique, Rose-Croix, etc. Ça a pénétré les communautés nouvelles. Et vous savez, je vous dis, les béatitudes. Éphraïm a écrit un bouquin sur l'énéagramme. Et dans les béatitudes, je ne sais pas si vous avez vu le document d'hier soir, mais ça commence à être un peu compliqué, hein, au niveau des FR3, je ne sais pas si vous avez vu complément d'enquête, enfin bon. Mais il va y avoir quelque chose de très tonique encore, je crois que c'est le 14 novembre, il va y avoir un document aussi sur la communauté des béatitudes et ce qui se passe dans certaines communautés nouvelles.